Nous allons parler du patrimoine aujourd'hui avec vous, Mathieu Pradel. Bonjour.
Bonjour, Jérémy.
Vous êtes guide conférencier pour le pays d'art et d'histoire de Moulins Communauté. Dans le cadre de ces missions, vous faites régulièrement visiter un des plus beaux sites d'Auvergne, sinon d'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est bien sûr l'ensemble prioral de Souvigny. Nous y reviendrons dans quelques instants. Je voudrais d'abord, avant cela, qu'on introduise un petit peu Souvigny dans son contexte historique, puisque on ne peut pas parler de Souvigny sans parler bien sûr de Cluny, cette grande abbaye médiévale, la plus puissante du Moyen-Âge, qui a donné naissance à une abbaye-fille, Souvigny. Quelle est cette histoire de Cluny, finalement, dans ce Xe siècle ?
Alors voilà, tout à fait. Déjà le Xe siècle, il faut savoir que c'est vraiment un temps d'effondrement. Hein. C'est-à-dire que le pouvoir carolingien va s'effondrer et l'Église va être fragilisée. Finalement, le pouvoir qui se met en place, c'est un pouvoir de seigneurs locaux qui vont vouloir se réapproprier les monastères, puisque les terres des moines sont très bien entretenues à ce moment-là. Et donc l'Église va devoir réagir. L'Église va réagir notamment grâce aux grandes réformes clunisiennes. Voilà, c'est donc Guillaume, duc d'Aquitaine, Guillaume Ier, qui était dit Guillaume le Pieux, qui en 908-910 va en fait donner des terres qu'il possède dans le comté de Mâcon, précisément à Cluny, à un moine qui est le moine Bernon. Le moine Bernon va devenir le premier abbé de Cluny. Il va devoir former les moines qui arrivent à Cluny. Et également, Bernon va imposer la règle de Saint-Benoît, la règle bénédictine. Le duc Guillaume Ier d'Aquitaine va empêcher toute pression sur l'élection des abbés. Et il va vraiment y avoir de grands hommes qui vont devenir abbés de Cluny. Très peu d'hommes pendant un siècle, hein, on peut les citer. Il y a notamment Bernon, Odon également, Aymar, Mailleul, Saint-Mailleul qui va rester à la tête de l'abbaye de Cluny pendant 35 ans, Saint-Odilon qui va y rester 55 ans à la tête de l'abbaye, et Hugues de Sémur, Saint-Hugues, 60 ans à la tête de l'abbaye de Cluny. Pendant qu'on a 6 pères abbés de Cluny, vous savez combien de papes on a qui se succèdent à Rome ? 42. 42 papes vont se succéder. Voilà, la seule autorité des abbés clunisiens à ce moment-là, c'est le pape. Le pape, il est loin, il est à Rome, ils vont avoir une certaine autonomie et une certaine indépendance. Quel est le rôle des moines clunisiens ? C'est bien sûr le salut des âmes. Voilà, ils vont prier pour les vivants, ils vont prier pour les morts. Voilà, l'intercession se définit donc par la prière. Et une sorte de négoce va se faire de manière naturelle. Cluny va énormément s'enrichir et c'est la raison pour laquelle les cisterciens et notamment Bernard de Clairvaux vont énormément critiquer les clunisiens. Également, il faut savoir que dans les abbayes clunisiennes, les prieurés clunisiens, il y a énormément de moines qui vivent en communauté. Il va falloir donc réfléchir. Il va falloir réfléchir sur l'architecture de ces églises. Il y a toute une réflexion qui va se mettre en place autour des clochers, autour de la voûte, des bas-côtés, mais également autour du déambulatoire, des chapelles rayonnantes, etc.
C'est-à-dire que tout de suite, finalement, la spiritualité va être mise en pratique dans l'architecture des bâtiments.
Quasiment tout de suite, hein, puisque voilà, on voit énormément de moines qui arrivent à Cluny, également dans ce qu'on appelle les filles clunisiennes, hein, il y en a 5. Cluny 3, qui est le bâtiment emblématique qu'on appelle la meilleure ecclésia, va être la plus grande église de l'Occident chrétien jusqu'à la reconstruction de Saint-Pierre de Rome.
Voilà. C'est dire le rayonnement international, au moins européen, de Cluny à cette époque-là.
Tout à fait. Et à la fin du XIe siècle, on a 1200 maisons clunisiennes en Europe. L'Europe se couvre vraiment d'un grand manteau d'église et devient un grand chantier, finalement. L'identité culturelle européenne se fait grâce à Cluny à ce moment-là. Alors, on appelle souvent, on l'appelle l'ordre de Cluny. Mais en fait, l'ordre de Cluny s'établit réellement qu'à partir du XIIIe siècle. Hein. Voilà, c'est-à-dire au moment où Cluny se structure sur le plan administratif. Il vaudrait mieux parler, avant cette date-là, de Cluny et ses monastères réformés. C'est très pyramidal comme construction. Hein. C'est-à-dire qu'on a l'abbé à la tête de la pyramide et les prieurés, les filles de Cluny, et ensuite tout l'ensemble du réseau clunisien en bas de la pyramide. Voilà, donc il faudrait plutôt dire congrégation clunisienne, c'est même préférable dans le sens où, même après, l'ordre, c'est finalement l'ordre bénédictin hein, qui régit tous ces monastères.
Mathieu Pradel, Cluny, bien sûr, se développe beaucoup en Auvergne et on a encore aujourd'hui des traces. Alors, Souvigny est très très bien conservé et puis il y a aussi d'autres endroits qui sont beaucoup moins bien conservés mais dont on a encore quelques traces historiques, c'est Filles de Cluny en Auvergne.
Oui, tout à fait. Alors l'Auvergne a été déterminante pour la fondation de Cluny, déjà par la figure de Saint-Géraud d'Aurillac. Voilà, Saint-Géraud d'Aurillac, sa vie a été écrite par le deuxième abbé de Cluny, Audan. Et si vous voulez, le monastère d'Aurillac a été une référence pour l'abbaye de Cluny. Mais Cluny a beaucoup plus rayonné qu'Aurillac. Aurillac a été retrouvé grâce aux dernières fouilles archéologiques qu'il y a eu ces dernières années. Il y a ensuite, bien sûr, les filles de Cluny. On a Sauxilange dans le Puy-de-Dôme, par exemple, Souvigny dans l'Allier. Et parmi les filles de Cluny, il y en a donc cinq. Il y a la Charité-sur-Loire dans la Nièvre, Saint-Martin-des-Champs à Paris et Lewes dans le sud de l'Angleterre. Elles ont un statut particulier, ces filles de Cluny, parce que ce sont des prieurés qui ont été mis en place très tôt, qui vont rayonner et sur lesquels Cluny va pouvoir s'appuyer durant toute son existence.
Nous parlons de l'ordre de Cluny, de la fondation des monastères clunisiens, notamment en Auvergne, et nous allons nous attarder un instant avec vous, Mathieu Pradel, guide conférencier pour le Pays d'Art et d'Histoire de Moulins Communauté, sur Souvigny, un magnifique ensemble prioral qui fait la fierté des Bourbonnais, récemment déclaré sanctuaire de la paix par Monseigneur Perceroux en 2017. Sur le plan historique, Souvigny, c'est un ensemble architectural absolument merveilleux, qui aurait besoin de travaux, mais qui est très représentatif de l'architecture clunisienne.
Alors, Souvigny, aujourd'hui, c'est Cluny, en fait. Il faut vraiment le savoir, puisque les cinq filles de Cluny dont je parlais précédemment, malheureusement, sont quasiment toutes en ruine où il reste peu d'éléments. Hein. Par exemple, la Charité-sur-Loire, il n'y a plus la nef qui a brûlé au XVIe siècle. Saint-Martin-des-Champs à Paris, aujourd'hui, c'est le conservatoire des arts et métiers. Lewes, bah, malheureusement, il reste plus grand-chose, quelques ruines, puisque ça a été entièrement détruit par Thomas Cromwell au moment où la religion est devenue religion d'État en Angleterre. Et Sauxilange, dans le Puy-de-Dôme, il reste quelques éléments, une partie du cloître, la salle capitulaire, Notre-Dame-des-Bois. Voilà. Alors que Souvigny, finalement, l'église priorale est intacte. Voilà. C'est le plus grand édifice du département de l'Allier, hein, en termes d'église.
Même si elle a subi quand même un petit rétrécissement au cours de l'histoire, et il nous manque quelques travées.
Tout à fait, il manque ce qu'on appelait la Galilée, voilà, qui au XVe siècle a été détruite au moment des travaux du prieur Chollet, au moment où vraiment la partie gothique est venue renforcer la partie romane. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'édifice de Souvigny est très pédagogique. Voilà, on a une partie romane, une partie gothique, et au XVIIIe siècle, il y a également eu des agrandissements avec la sacristie, avec le prieuré bénédictin également construit entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Souvigny, si vous voulez, ça s'est passé un petit peu comme à Cluny. C'est-à-dire que Aymar, le premier ancêtre connu à ce jour des Bourbons, va faire don de ses terres aux moines clunisiens. Voilà, entre 915 et 920. Donc on voit qu'on est très proche de la fondation de Cluny. Vers 950, les premiers moines débarquent à Souvigny. Chaque moine est accompagné d'une dizaine de personnes. Et ils vont décider de reconstruire l'église de Souvigny. L'église primitive, puisqu'il existait une église primitive au temps des Mars, on ne sait pas exactement où elle était située. Certains archéologues pensent qu'elle était située à la place de l'église priorale actuelle. D'autres pensent qu'elle était située au niveau de l'espace Saint-Marc. Voilà. Ce qu'on est sûr, par contre, c'est qu'au Xe siècle, lorsque les moines reconstruisent l'église de Souvigny, ils la reconstruisent donc à l'emplacement de l'église actuelle. Ce qui va déterminer le destin de Souvigny, c'est la mort de deux saints abbés. Hein, la mort de Saint Mailleul en 994, qui est mort par hasard, quelque part, à Souvigny, puisqu'il se rendait
de passage,
à Paris. Voilà, il était en passage. Il décède à Souvigny. Bon, tout de suite, il est canonisé. On conserve ses reliques. On sait que les rois de France, d'ailleurs, Hugues Capet et Robert le Pieux, sont venus en pèlerinage à Souvigny. Pour la petite anecdote, les Clunisiens, ils ont voulu récupérer quand même les reliques de Saint-Mailleul, mais ils ont été chassés de Souvigny à coups de jet de pierre. Voilà, et Saint-Audilon également, qui est mort en 1049. Voilà, le passage ensuite du pape Urbain II en 1095 a permis de rassembler les reliques des deux saints dans un seul et même sarcophage au centre de la nef. Et c'est ça qui a vraiment déterminé le destin de Souvigny, puisqu'il faut comprendre l'église de Souvigny comme un grand reliquaire construit autour du tombeau des deux saints abbés. Et l'archéologie est venue confirmer ce qu'on connaissait déjà dans les textes, c'est-à-dire que durant les fouilles archéologiques de 2009 à 2012, eh bien, on sait qu'il y a eu de nombreux squelettes qui ont été retrouvés, et notamment sur certains squelettes, on a retrouvé des coquilles Saint-Jacques, par exemple, donc on sait qu'il s'agissait de pèlerins, ou encore des squelettes qui avaient subi des déformations corporelles, des pieds beaux, par exemple. Voilà, on sait que c'était des pèlerins qui venaient rechercher la guérison.
Et puis, Mathieu Pradel, il y a aussi une famille qui a bien compris l'importance de Souvigny. Bien sûr, c'est la famille de Bourbon, puisque plusieurs de ses membres, dont les plus célèbres, Anne et Pierre, sont enterrés dans l'église de Souvigny. Finalement, la famille de Bourbon qui en a fait aussi sa nécropole, quelque part, pour asseoir un pouvoir politique aussi.
Exactement, voilà, le premier à avoir compris l'importance du site, c'est Louis II de Bourbon, voilà, qui s'est fait enterrer dans la chapelle vieille de Souvigny, qui est intégrée au transept sud de l'église. Alors la chapelle vieille, elle a été restaurée entre 2014-2015 et a permis de retrouver un décor absolument merveilleux sur la voûte de la chapelle, hein, des anges qui chantent le Gloria. Et son petit-fils, Charles Ier de Bourbon, marié à Agnès de Bourgogne, est enterré, lui, dans la chapelle neuve, qui est là une construction, finalement, à part entière, qui s'intègre directement vers le transept nord de l'église. Et la chapelle neuve des Bourbons est finalement construite sur le modèle des saintes chapelles. Voilà, c'était vraiment un édifice assez fantastique à l'origine, puisqu'il y avait des vitraux, il y avait toute une décoration héraldique. Il faut bien comprendre que ça ressemblait à une sorte de chasse émaillée autour du tombeau de Charles Ier et d'Agnès de Bourgogne. Et effectivement, la chapelle neuve est une sorte de témoignage de l'identité bourbonnaise, puisqu'il y a tous les ducs et duchesses de Bourbon qui sont enterrés à sa suite, hein, que ce soit Jean II, Pierre II de Beaujeu, effectivement. Alors, ce qui est également intéressant, ce sont les lectures du chanoine Cotte. Parce que le chanoine Cotte nous dit qu'à l'enterrement de Pierre II de Beaujeu, il y avait tellement de cierges qui brûlaient dans l'église qu'on a été obligé d'ouvrir les vitres de la croisée du transept. Voilà, ce qui montre l'importance de la fumée et l'importance du personnage et au moment de son inhumation. Et c'est également à Souvigny que Anne de Beaujeu et sa fille Suzanne ont été désignées héritières de Pierre II de Beaujeu directement, voilà, même si la cour était située à Moulins. Voilà, le dernier personnage à avoir été enterré dans cette chapelle, c'est Sixte de Bourbon-Parme, qui a été enterré en 1934 et qui était le frère de la dernière impératrice d'Autriche-Hongrie, Zita de Habsbourg. Voilà, il est surtout connu pour avoir essayé de négocier un traité de paix durant la Première Guerre mondiale entre la France et l'Autriche-Hongrie.
En quelques secondes, Mathieu Pradel, puisqu'on arrive au terme de notre entretien, Souvigny, aujourd'hui, il reste beaucoup de choses à faire. Il y a à l'heure actuelle une prévision de plusieurs années de travaux pour restaurer l'ensemble des bâtiments. Mais le prochain projet, c'est vraiment la restauration de la chapelle neuve dont vous venez de nous parler à l'instant, qui a besoin de travaux.
Effectivement, la chapelle neuve a besoin de travaux. Alors, les premiers à avoir vraiment alerté et mis en place une souscription à communication nationale, c'est la Fondation du patrimoine, grâce notamment à l'action de son délégué départemental Laurent Poirier. Voilà, et donc depuis le mois d'octobre 2020, nous avons collecté des fonds pour cette chapelle neuve et nous en sommes aujourd'hui officiellement à 265 000 euros que vous pouvez voir sur le site internet de la Fondation du patrimoine. Cette chapelle va nécessiter des travaux très importants, hein, puisqu'on estime à peu près l'ensemble des travaux à plus d'un million d'euros. Donc on espère encore collecter des fonds pour pouvoir la restaurer entièrement avec, on l'espère, la mise en place d'un comité scientifique qui permettra de déterminer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire dans la restauration de cette chapelle.
Merci Mathieu Pradel de nous avoir raconté l'histoire de Cluny puis de Souvigny et puis bien sûr de nous avoir aussi parlé des travaux nécessaires sur cette chapelle neuve dont nous suivrons bien sûr l'évolution au cours du temps, au cours des prochaines années. Merci beaucoup, à bientôt.
Je vous remercie, à bientôt, au revoir.